cette invitation. Donc, merci particulièrement à Laurence, Marie-Thérèse et Ismaël de la bibliothèque de la Sorbonne et à la Maison des Livres dans son ensemble. Ce que je vais proposer est humble parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour travailler ici, mais je suis contente de le faire à la bibliothèque de la Sorbonne parce que c'est ici que j'ai préparé l'agrégation de lettres. Donc s'il y a un endroit où j'ai cité comme des répliques du quotidien des extraits de textes, y compris du 15e siècle, et qui étaient devenus des blagues avec des camarades, c'est bien dans cet endroit. Donc je suis contente de revenir et de dire d'autres mots que ceux qui étaient déjà écrits d'une certaine façon. Donc voilà, je me suis lancée un peu à corps perdu dans l'idée que je voulais chercher sur la route. Donc j'ai eu des surprises et puis ça donne un texte pas très long que je vais vous lire. Tu crois savoir d'avance quel sera l'itinéraire. Tu as une idée très claire, crois-tu, de ta destination. Les outils modernes de navigation, crois-tu, t'amèneront au but avant même que tu ne te mettes en route. C'est simple. Tu entres un mot, celui qui dit où tu veux aller, dans la barre de recherche, symbolisé par une petite loupe stylisée. Des loupes réelles, tu n'en as vu que peu, mais tu sais que celle-ci est stylisée et qu'elle ne sert pas à grossir le dessin d'une hypothétique carte routière, mais à te dire qu'elle trouvera pour toi. Modèle du moteur de recherche, capable de traiter l'intégralité du monde réel, comme s'il s'agissait d'une carte dont il suffit de grossir le dessin pour connaître. Tu as confiance dans la technique moderne. Tel est l'objectif de ton trajet, connaître. C'est un trajet, c'est une question, c'est une enquête. Tu cherches la route vers la destination route. Tu crois savoir t'orienter à peu près, déjà, vers ce moment de l'histoire de France où l'on construisit de grandes universités et de grandes bibliothèques à l'intérieur. À un moment où la France se pensait comme un territoire assez petit à l'échelle du globe, certes, mais assez grand pour suffire à occuper une dynastie entière de rois, avec leurs ministres et la kyrielle des conseillers, un territoire plein de ressources, forêts, prairies, vins, fromages, mais peu praticable, notamment en l'absence de routes correctes. Ce qui t'intéresse, c'est ce moment où les gens qui dirigeaient le pays où tu es né, où tu vis, et qui jusqu'alors ne s'en étaient pas trop préoccupés, ont décidé d'un coup qu'on y allait, on ouvrait des routes. Tu imagines la grand-mère, de la grand-mère, de la grand-mère, de la grand-mère, de ta grand-mère, voir tout d'un coup débouler au loin, à côté du chêne qui borde le champ, là où passe le sentier des chèvres, ce qui tenait lieu alors de bulldozers, ce qui tenait lieu alors d'ouvriers journaliers, déjà des galériens, des sans-papiers, déjà menacés de la force et déjà durs à la tâche et fiers polyglottes. Ce qui tenait lieu alors de contremaîtres à lunettes et en chemise sous un casque de chantier mal ajusté. Ce qui tenait lieu alors de cartes, de plans, de talkie-walkie et de bétonneuses. Tu voudrais savoir comment ils ont décidé que ça passerait là, au coin du chêne, cette route que personne n'envisageait jusque-là et qui d'un coup ferait que passerait du monde, qu'arriveraient les nouvelles, qu'on se rencontrerait, qu'on discuterait. Cette route qui d'un coup ferait pays. À ce moment-là, des gens comme Richelieu, Louis XIV, Colbert inventèrent pour ainsi dire la route. Tu le sais. Car en France, il y avait alors uniquement des chemins, grands et petits. Or, le mot chemin vient du celte et apparaît avec son sens actuel dans la chanson de Roland. Tandis que le mot route vient du latin impérial. Et il n'entre dans le dictionnaire de l'Académie qu'en 1694. Ainsi, crois-tu, le mot « route » lui-même, autant que la réalité qu'il recouvre, fait signe vers un changement d'échelle d'action du pouvoir, puisque la route, étymologiquement, est « rupta », la voie qu'on ouvre. Il s'agit d'une invention des puissants, crois-tu. Donc, un nouvel outil pour régner, domestiquer. Comment eurent-ils l'idée? Comment procédèrent-ils? Ils firent des cartes, tu le sais. Pour faire ces cartes, quelle réunion, quel rétro-planning, quels ordres donnés. Puis, lorsque des tracés neufs étaient décidés, par qui? Quel argent, quelle pierre, quel bras pour construire? Voilà ce que tu cherches avec ta loupe virtuelle. Or, en même temps, ils inventèrent de grandes bibliothèques, qui devinrent publiques. D'un côté, la route et l'itinéraire, les relais, les guides de poste. De l'autre, des rayonnages dans de grandes salles qui montrent la puissance du prince, dépositaire non seulement du territoire, désormais fixé par le traité de Westphalie, mais aussi de tous les savoirs. Richelieu capture à La Rochelle le bastion protestant et la bibliothèque en même temps. Colbert demande à ses intendants, occupés à dresser l'inventaire des chemins et à faire respecter les tracés, de lui récupérer les manuscrits des monastères. Et ils payent des gens pour faire le catalogue de leurs collections amassées, tout comme ils en payent d'autres pour rendre compte des progrès de l'absolutisme chez la grand-mère de ta grand-mère. Le bibliothécaire, c'est l'intendant des idées. La richesse et l'intérêt général, dans le cas de la bibliothèque comme dans celui de l'ouverture de route, se confondent dans la tête des décideurs. 2. Tu sais depuis longtemps que la connaissance se trouve souvent dans les catalogues des bibliothèques. Tu t'y repères, tu as tes habitudes. Car les catalogues ne sont que des chemins, un monde de chemins où il faut s'orienter. Certains chemins sont des grandes routes, auteur plus titre par exemple, voie royale. D'autres sont de simples chemins vernaculaires, de contrebandiers ou de pâtres, qui existent depuis la nuit des temps mais qui sont parfois enfouis dans les hautes herbes, parfois plus entretenus, parfois même effacés. Un pays, ce monde des catalogues. Tu as confiance. Tous les chemins ont déjà été empruntés au moins une fois. C'est à cela qu'on les reconnaît. Tu sais qu'il s'y trouve toujours à la fin un document que quelqu'un a déjà écrit pour que tu le lises un jour. Tu sais que dans ce document, tu trouveras d'autres pistes qui te mèneront à d'autres routes par des giratoires bien fléchés. Un pays développé, efficace. Le catalogue est un atlas, un recueil d'itinéraires. Et peut-être ce que tu cherches, c'est le catalogue lui-même. La carte du catalogue, finalement. Comme tu désirerais une carte de toutes les routes, tous les chemins. Embrasser d'un seul coup d'œil toutes les bifurcations, tous les carrefours, être au-dessus de l'aïeul, voir comme Colbert a vu dans sa seule imagination. Car Colbert n'avait pas d'atlas des routes. Car il n'y avait pas de route. Les cartes et les routes naissent en même temps, en un sens. Tout comme les bibliothèques et leurs catalogues. L'un ne va pas sans l'autre. Et peut-être même aucun des deux n'est possible sans l'autre. Tu as fait un choix, sélectionné des fiches. Tu apprends que certains ouvrages vont prendre une navette. Ne sont pas là. Ne sont pas dans le sous-sol labyrinthique de la Sorbonne. Mais ailleurs. Au bout d'un autre itinéraire, celui-là bien réel. Mais où en est la carte? Les canaux informatiques se mettent en branle, eux aussi hors d'atteinte, hors de cartographie. Les fiches sont des viatiques qui se déplacent par des chemins ignorés, de serveurs en base de données, de rayonnage en ascenseur. Et comme par magie, tu es là, il y a des guichets, des portes, et les livres te sont donnés. Par quel secret passage? Les plans d'évacuation au mur ne t'en diront rien. Le catalogue a fait le voyage à ta place. Et sur les cartes routières que tu espères trouver, tu pourras aussi, crois-tu, te déplacer en pensée à travers le vaste royaume de France qui a commencé à naître. Splendide appareil d'État, construit sur le pillage des ennemis, quelle belle incunable chez ce Huguenot, sur la force des bagnards qui construisent les routes et les ports et des friches, construit sur des crimes comme seules les nations en commettent, braquage à milliards, vol de continents, corrompu jusqu'à l'os, par l'or, peut-être. Mais en attendant, nous voilà dans une bibliothèque, sous le nez de Richelieu, donc je pensais qu'il y aurait Richelieu derrière moi, qui sur ses plans a des routes nouvelles. Et voilà que tu te perds dans l'une en cherchant les autres. Tu es perdu dans le plan national. Tu es perdu dans les projets fous du chauvinisme, splendeur, richesse, bien public, sagesse, trésor des princes. Aussi ébahi que la grand-mère de la grand-mère de la grand-mère devant l'ancêtre du bulldozer. Tu ne trouves pas d'atlas. Tu ne trouves pas d'atlas. Tu as trouvé l'état général des routes de France de l'année 1788 et la guide des chemins de France de 1553. Les reliures craquent, on les manipule avec soin. Tu penses à ceux, quels aïeux, qui s'en sont servis, cherchant l'horaire de la patache, un soir de grand vent, pourquoi pas à 9h. Tu penses aux bagnards qui cassaient les cailloux à côté des paysans, renfrognés par la corvée de 3 semaines, pile au moment des moissons. Il fallait même fournir les chevaux de trait. Tu penses aussi aux pillards des bibliothèques, aux manuscrits perdus. Dans les vieux livres, tout est bien cartographié, quoique sans carte. Par tronçon d'itinéraire, les tarifs des chevaux, les conseils. Prends chemin à main dextre, hors le bourg, passe un pont. Les interdictions. Il est défendu à tout courrier de frapper ni de souffrir que leur domestique frappe aucun postillon, ni de fouetter et faire fouetter les chevaux. De page en page et de bourg en bourg, des chemins, par dizaines, et c'est ce qui est fascinant et beau à la fois. de La Ferté à Montmorency, une poste et demie. De Napoléon à Antibes, passer par le bord de mer. Tu tournes les pages, ça n'a pas d'ordre logique. La géographie à laquelle ta tête est habituée n'a pas cours. Le territoire en est étrangement aplani, sans plus ni capitale, ni nord, ni sud. D'une certaine façon, on peut lui faire raconter ce qu'on veut. Certains ne se gênent pas. Dans Les routes de France, par Jean Bonnereau, publié en 1919, au lendemain de la Grande Guerre, on a le couplet, je cite, « Épopée splendide qui semble écrite sur le sol vivant de nos routes et comme aucun peuple n'en possède. La mythologie est inscrite dans le sol en même temps que les pavés, avec les mêmes souffrances de corvéables. Il y a l'épopée, il y a aussi le vaudeville. » La duchesse de Lauzin, veuve du célèbre Lauzin qui traita Montespan, je cite, de « putachienne », a intrigué pour que la nouvelle route passe près de Randan en allant de Clermont-Ferrand à Vichy. Sombre affaire. Quelles intrigues. Henri Cavaillès, auteur de « La route française, son histoire, sa fonction », ne prend pas la peine de préciser. Duchesse ou pas duchesse, elles sont capables de tout. Tu n'as pas trouvé la grand-mère de la grand-mère, ni le compte-rendu de la réunion de rétroplanning. Tu as trouvé des ouvrages marqués « manquant système ». Tu as trouvé la consigne donnée par le ministre Houry de faire les routes les plus droites possibles. Tu as trouvé les déplorations de Vauban sur ce pays incarrossable. Tu as trouvé un portrait de Gabriel Naudet, bibliothécaire de Mazarin, atteint d'un strabisme déconcertant. Tu as trouvé des titres enchanteurs sur les routes préhistoriques. Tu n'as pas trouvé le moment précis où tout a basculé. Preuve peut-être qu'il n'existe pas. Preuve certainement que personne n'en a tenu chronique. Mais au détour de page, tu as trouvé les gens. Ça arnaque un peu, les gens. Les bouviers de la montagne de Tarare, par exemple, sur la route de Paris à Lyon, prennent leurs aises avec les tarifs. Les voyageurs ne peuvent pas se passer d'eau pour monter la pente en hiver. Or, si beu, c'est beaucoup trop. La déclivité n'est pas telle. On ne peut pas décemment faire payer autant. Et un décret est pris par Louis XV, si beu par temps de neige, soit, mais quatre printemps. Se reporter au calendrier, page 12. La France ne saurait tolérer l'arnaque, dit le roi, inventeur du papier-monnaie et des crashs spéculatifs. Et puis les gens s'alambinent. Les postillons français, c'est de notoriété publique, ont un poil dans la main. C'est pourquoi on leur interdit en 1754 de s'arrêter au relais plus longtemps qu'il ne faut pour changer les chevaux, sous peine de passer 3 jours dans la prison royale la plus proche. Il faut leur apprendre. Il faut que la France soit une entreprise qui roule. C'est ainsi dans la tête des puissants. Et au cours du XVIIIe siècle, les routes poussent de partout. Mais les nouvelles qui arrivent par toutes ces routes neuves, qui font leur chemin, elles apportent un vent de tempête. À Randan, le château des Lauzin n'en a plus pour longtemps. Bientôt, dans les palais, on saisira de quoi alimenter de nouvelles bibliothèques. Dans les cahiers de doléances de Bourgogne, en 1788, l'abolition des platanes en bord de route figure parmi les revendications, à côté de la réforme de l'impôt. Voilà qui te fait penser que là où il y avait le chêne au coin du champ, on a construit récemment un rond-point, dernière forme en date de l'intervention de l'appareil d'État sur le territoire. Un magnifique rond-point, spacieux comme un stade. Du rond-point à faire pâlir d'envie tous les intendants du coin. La préfecture, elle veut que ça circule, par 35 tonnes. Elle veut que ça tourne sur le rond-point, même si le ruisseau d'à côté en déborde. Mais depuis peu, divers gens, bouviers, corvéables, postillons, en chasubles fluo, s'y réunissent. Ils râlent. Ils en ont marre, dirait-on, de la France qui roule. Alors tu te dis que peut-être tu aurais dû commencer par là, tenir leur chronique, afin que dans quelques siècles, quelqu'un ou quelqu'une, cherchant la grand-mère de sa grand-mère, au gré des catalogues, trouve exactement la réponse à sa quête. Mais sans doute que ce quelqu'un, quelqu'une, de l'avenir, en aurait finalement été déçu, de savoir pile quel est le moment de la bascule. Sur la route ou dans les rayonnages, d'une certaine façon, le chemin vaut mieux que le but.